Bonjour. Nous allons voir une histoire assez extraordinaire ce matin, qui, je suis sûr, va nous encourager, va nous booster si on a un petit coup de mou, si on est envahi par les soucis, les difficultés. Mais avant cela, un petit peu d'histoire. C'était il y a fort longtemps, a long, long time ago, environ 3000 ans. Le peuple d'Israël avait réclamé un roi à l'Éternel. Et l'Éternel avait répondu, il lui a donné Saül. Saül, fils de Kish. Et ce Saül, ça s'est assez vite mal passé avec lui. Je ne sais pas si c'était la pression de se retrouver roi, mais il s'est montré impatient et il a usurpé des droits qui n'étaient pas les siens en sacrifiant l'Holocauste. Un jeune homme, un berger qui gardait ses moutons, a rencontré Saül. Il a lors d'une guerre avec les Philistins. C'était l'ennemi du moment, le Philistin. Et c'est là qu'il y a eu David avec Goliath. Vous connaissez, je pense, tous cette histoire. Et puis, David a pris de plus en plus de place. Goliath est devenu jaloux. Il a dit qu'il avait un mauvais esprit, qu'il agitait. Saül lui jouait de la harpe de temps en temps et ça le calmait, ça lui faisait du bien. Hein? Ah d'accord, excusez-moi. Désolé. Donc c'est Saül. On est d'accord, Goliath il est mort. Hein? Et puis David joue de la harpe à Saül pour l'apaiser. Mais Saül veut tuer David. Il le menace à plusieurs reprises de sa lance. Et David doit fuir, il doit fuir. Et puis, à deux occasions, il aura l'occasion à son tour de tuer Saül. Mais il ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que c'était le oint, il était oint par l'Éternel pour être roi. Et il ne voulait pas toucher à loin de l'Éternel. Mais un jour, les Philistins attaquent encore. Ah, ces Philistins. Et voilà que dans une bataille, ils tuent Saül, Jonathan, son fils, et deux autres fils de Saül. Jonathan, qui était un ami très cher de David. Et après cela, on est entré dans une période de grand trouble en Israël. Il ne faut pas croire que parce que Saül était mort, les choses se sont déroulées comme ça. Tout d'un coup, ben voilà, tout le monde était heureux, David sera notre roi, parce qu'ils aimaient bien David, hein, on l'élevait dans les champs, etc. Mais il y a eu en tout cas 7 ans de grands troubles parce que Saül avait des personnes qui tenaient à lui encore et à sa famille. Et il y avait entre autres son général Abner, fils de Ner, qui a intronisé en quelque sorte un des fils de Saül qui était toujours vivant, Ish-Bosheth, et qui l'a fait roi. Et David, qui avait été oint entre-temps, a pris quand même sa place en Juda. Il est allé à Hébron. Il a demandé à l'Éternel ce qu'il devait faire. Il est allé à Hébron. Et là, il a régné sur une partie de Juda. Et après, voilà que Abner, pour une histoire de femme que je ne vous raconterai pas ici, vous pourrez la trouver dans la Bible, a changé de camp. Il a été vexé par Ish-Bosheth et il est parti dans le camp de David. Et assez rapidement, Ish-Bosheth a été lâchement assassiné pendant sa sieste. Moi qui aime bien faire les siestes, je ne suis pas roi. Il a été lâchement assassiné. Et Abner, lui aussi, qui pourtant avait rejoint le camp de David, a été assassiné par Joab, le général de David. Et il est mort. On était dans les troubles. David, là, a pu prendre sa place entièrement. Il a régné alors sur tout Israël. Et puis, eh bien, il a fait de grandes choses. Il a battu les Philistins. Il a fait revenir le coffre de l'Alliance. Ça s'est passé en deux étapes jusqu'à Jérusalem. Dans les grandes fêtes, dans les danses, c'était magnifique. Dieu a fait alliance avec David. Il a remporté encore une victoire sur les Philistins, sur d'autres peuples. Et là, il établit son royaume. Et nous arrivons au début de notre histoire. Ça va, vous m'avez suivi à peu près? Tant mieux. Je vous propose de lire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Elle répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus, des pieds, handicapé, hein, des deux jambes, il ne pouvait pas marcher, le gars. Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Wow. » Il se prosterne encore et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Ouais. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Wow, quelle histoire! C'est vraiment une histoire extraordinaire que cette histoire de Mephibosheth. On voit que David demande, est-ce qu'il y a encore un descendant de Saül à qui je pourrais montrer de la bienveillance ? À qui je puisse faire du bien. Et ce terme, en hébreu, c'est « esed ». C'est à la fois la miséricorde et la grâce. C'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est une qui est issue d'une alliance, qui est issue d'une relation avec quelqu'un avant déjà. Et David ne connaissait absolument pas. Il ne savait pas s'il y avait encore un survivant, il ne savait pas comment il était, qui il était, mais quel qu'il soit, il voulait lui montrer cette bienveillance de l'Éternel, quel qu'il soit. Et pourquoi cela? Pourquoi? Parce que, eh bien, il avait fait une alliance avec Jonathan. Quelque temps auparavant, quand Jonathan s'était engagé à se renseigner sur les intentions de Saül quant à David, s'il voulait vraiment le tuer ou pas, eh bien, ils avaient fait une alliance au moment de se séparer. C'est la dernière fois qu'ils se voyaient. On voit en 1 Samuel 20, c'est Jonathan qui parle, « Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel. » Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David, que l'Éternel se venge des ennemis de David. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Et c'est à cause de cette alliance qu'il y avait eu entre Jonathan et David, que David veut trouver quelqu'un encore, un descendant de cette famille, pour lui faire du bien, pour montrer sa bienveillance à son égard. Mephibosheth, en l'occurrence, il y était pour rien du tout. Ça venait de cette alliance avec son père, avec Jonathan. Ce n'est pas une bonté humaine, simplement. Alors certains diront peut-être qu'il y avait des enjeux politiques dessous pour la réunification du peuple, mais même s'il y en avait un peu, il n'aurait jamais agi avec tellement de bonté à l'égard de Mephibosheth. Et voilà que Tsiba dit « Il reste encore quelqu'un, il reste encore un fils à Jonathan. » Et tout de suite il dit « qui est handicapé des deux pieds. » Qui est perclu, on n'utilise plus tellement ce mot, hein, être perclu des pieds. Enfin voilà, il ne pouvait plus marcher, hein, ce n'est pas seulement un petit handicap qui le faisait boiter, mais il était complètement, il pouvait pas marcher, ce n'était pas possible. Qu'est-ce qui lui était arrivé à ce pauvre Mephibosheth? Eh bien, lorsque il y a eu la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, eh bien, une nourrice l'a pris pour s'enfuir. Et elle l'a laissé tomber. Vous imaginez, il avait 5 ans. Le pauvre garçon, à 5 ans, il perd son père, son grand-père, deux oncles et ses deux jambes. Et à cette époque, eh bien, être handicapé, c'était presque une condamnation à mort, ou en tout cas à vivoter. À être mal vu par la société. C'était le rebut de la société. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait strictement rien apporter dans cette société. Il ne pouvait pas travailler. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui donne à manger? Il n'y avait pas l'AI à l'époque. Il n'y avait pas d'assurance maladie. Il n'y avait rien. Et on voit que cet homme, Mephibosheth, habite à Lodébar. Alors, je n'ai pas mis des cartes, mais Lodébar, c'est en Transjordanie. C'était loin de Jérusalem. C'était très loin. Il vivait pratiquement dans le désert. Parce que, si vous avez fait un peu d'hébreu, pas comme moi, eh bien, vous saurez que Lodébar, l'eau, c'est quelque chose qui est privatif, c'est une absence de pâturage. C'est un lieu où il n'y a pas de pâturage, où il n'y a pas de repos, où c'est le désert. Et le pauvre Mephibosheth, paralysé, vivait dans un lieu pas possible. Il vivait loin de tout, dans le désert. Quel était son avenir? Quelle était son espérance? Rien, rien du tout. Et voilà que Moïse le fait venir. David. Vous êtes très attentif. C'est bien, c'est bien. Donc David fait venir Mephibosheth. Alors, imaginez un peu quel devait être l'état d'esprit de Mephibosheth. Mephibosheth, paralysé, fils de Jonathan, c'est-à-dire du clan ennemi de David, qui est convoqué par le roi. À l'époque, s'il restait des survivants d'une famille ennemie, on les éliminait. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'histoire, on ne faisait pas d'histoire, on éliminait complètement. Donc, il devait être dans la crainte, la peur. Qu'est-ce qu'il me veut, le roi ? Pourquoi est-ce qu'il me convoque ? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui va m'arriver à Jérusalem ? Je vais être mis à mort. Je ne mérite pas de vivre. En plus, je suis paralysé. Je ne peux rien lui apporter à ce roi. Je ne peux même pas l'aider. Je ne peux rien faire. Et c'est là que est ce qui fait qu'il va tomber sur sa face. Il tombe sur sa face. Il se jette à plat ventre. Je ne vais pas le faire parce que je ne pourrais plus me relever. Mais il se jette à plat ventre devant David. Ah, c'est terrible. Merci de m'accueillir comme ça. Et David va faire quelque chose d'absolument incroyable pour l'époque. Incroyable, totalement à contre-courant des habitudes de l'époque. Il va lui faire grâce. On va relire le texte. Donc, dès qu'il arrive vers David, Mephibosheth se jette par terre, à plat ventre devant lui. David dit « Mephibosheth ». Il répondit « Voici ton serviteur ». Et tout de suite, David, il sait qu'il a peur. Il sait qu'il est dans la crainte par rapport à ce qui va lui arriver. Il lui dit « Ne crains pas, ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père ». Après, c'est incroyable. Écoutez ça. « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterne encore, il se jette encore à plat ventre, Mephibosheth, il dit « Mais pourquoi tu fais ça pour un gars comme moi qui ne vaut pas plus qu'un chien mort ?» Voyez un peu l'estime qu'il avait de lui-même, et à juste titre, il valait rien. Un chien mort. C'était le pire qui pouvait. Le pire animal, il n'y avait rien de pire qu'un chien mort. Juste avant, il y avait les chiens errants. Ce n'étaient pas des chiens de compagnie qu'on va se promener. C'était des chiens errants qui venaient se nourrir dans les maisons, mordre les passants de temps en temps. Et là, un chien mort. Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Et après, eh bien, il lui dit, tu mangeras toujours à ma table. Il l'invite à sa propre table. Ce gaillard, ça devait être un jeune adulte, je pense, à ce moment-là, s'il avait 5 ans quand son père est mort. Il y a eu quelques années qui se sont passées, on voit qu'il avait un fils. Et il l'invite à sa table comme quelqu'un de sa propre famille. Et il ne lui dit pas « Je t'invite les dimanches ». Enfin, un dimanche sur deux. Il ne faut pas exagérer. Ah, au début, puis après, un par mois. Il dit « Tu mangeras continuellement à ma table. Tu mangeras continuellement à ma table. » Waouh ! Et puis, c'est bien joli de recevoir des terres en abondance. Mais encore faut-il pouvoir travailler cette terre, cultiver, moissonner. Eh bien, le roi ordonne à Tsiba de s'occuper de ces terres. Et fort heureusement, cet homme avait 15 fils, pas mal, et 20 serviteurs. Et il était à Jérusalem et il mangeait continuellement à la table du roi. Et encore, donc là, il dit, c'est à cause de Jonathan, ton père, que je te fais du bien. C'est à cause de cette alliance que je te manifeste tout cela. Toutes les terres de Saül, certainement que ce Méphibosheth était le deuxième homme, certainement le plus riche du royaume après David, hein. Parce que Saül, il avait des quantités de terres absolument. Et donc, c'était le roi. Certainement que peut-être que Méphibosheth était celui qui avait le plus de terres après le roi David. Waouh ! Il se voit comme un chien mort. Il se voit comme un chien mort. Est-ce que ça a de l'importance ? Ça n'a strictement aucune importance pour David. Du reste, il ne répond pas à ça. Il ne lui dit pas « mais non, mais non ». Ça n'a aucune importance pour David parce que lui, ce qui importe pour David, c'est de pouvoir être fidèle à cette alliance. C'est ce que pense David qui fait la différence. Et nous, comment est-ce qu'on se voit ? Hein, les amis ? Des fois, on se voit à peine mieux qu'un chien mort, peut-être. Et alors ? Où est le problème ? Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est la manière avec laquelle je me vois ou bien est-ce que c'est la manière avec laquelle Dieu me voit ? Est-ce que c'est la manière avec laquelle je me considère ou bien c'est la manière avec laquelle Dieu me considère ? Et Méphibosheth va vivre ainsi à Jérusalem. Et c'est intéressant parce que le texte termine parce que encore il est toujours handicapé à la fin de l'histoire. Il n'a pas été guéri. Il est toujours handicapé. Il était estropié des deux pieds, toujours. Mais il était dans la présence du roi. Et plus tard encore, je pense quelques années plus tard, David va encore le délivrer d'une mort certaine. C'est un épisode avec, qui s'est passé avec les Gabaonites. Vous connaissez les Gabaonites ? Oui, bien sûr. Ce sont les habitants de Gabaon. C'est une peuplade qui avait trompé Josué au moment de la prise du pays de Canaan, si vous vous rappelez. Ils détruisaient, ils tuaient tout le monde. Ils avaient reçu l'ordre de Dieu de tuer tout le monde dans le pays. Et voici que les Gabaonites, qui n'étaient pas bêtes, ils se sont fait passer pour un peuple qui venait de très, 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 très loin. Ils ont pris des pains complètement secs, des vieux habits, des vieilles sandales et tout. Puis ils sont venus vers Josué. Puis ils ont dit, pitié, on a fait un long voyage pour venir jusqu'à toi. Viens, fais-nous grâce qu'on puisse signer une alliance avec toi. Et Josué l'a fait. Et ce qui fait qu'après, on voit vraiment encore une fois qu'une alliance est sacrée. Ils ont été serviteurs des Israélites, mais il ne les a jamais tués. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas les détails de l'histoire, mais Saül s'est attaqué aux Gabaonites. Et il y a eu une conséquence à cela, il y a eu une famine dans Israël, parce qu'il n'y a pas eu le respect de cette alliance. Et David a compris que c'était en rapport avec Gabaon. Et il est allé vers eux discuter, qu'est-ce que vous voulez ? Nous ne voulons pas d'argent. Mais c'est comme c'est Saül, eh bien, nous voulons 7 descendants de Saül que tu nous les donnes pour que nous les mettions à mort. Ah, ça rigolait pas. Et là, eh bien, David, il est bien dit que David n'a pas donné Méphibosheth. Il a donné d'autres personnes aux Gabaonites pour qu'il les mette à mort. Et la famine s'est arrêtée. C'est pas très gai, hein? Mais cette histoire de Méphibosheth est assez extraordinaire parce qu'elle nous montre la miséricorde et la grâce de Dieu et qu'elle illustre pour nous comment est-ce que je viens devant Dieu. On voit que c'est Dieu qui appelle Méphibosheth, qui se renseigne sur lui, qui va le chercher même. Et Dieu, eh bien, vient nous chercher aussi, là où nous sommes. Là où nous sommes, il vient nous chercher, il nous appelle. On voit, il lui dit, Méphibosheth, hein, Xavier, Mathurin, je crois toujours Mathurin, Salomé, Jessica et tous les autres, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? À nous mettre au travail? À commencer à plaire à Dieu, à être gentil, etc.? Non. Nous ne pouvons strictement rien faire. Chers amis, nous sommes comme Méphibosheth. Nous sommes les Méphibosheth du XXIe siècle. Nous sommes perclus des pieds, même si nous marchons sur nos deux jambes, mais spirituellement, nous sommes perclus des pieds. On ne peut rien faire. On ne peut strictement rien faire. Et si Dieu nous appelle, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de spécial. Non, c'est parce que c'est à cause de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour tout chacun. Pour toutes les personnes qui reçoivent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Waouh ! Et il nous invite aussi à sa table. Il nous donne, alors, on n'a pas eu d'héritage particulier sur cette terre, mais nous sommes invités à la table du roi. Et un jour, dans le futur, eh bien, sur la nouvelle terre et nouveaux cieux, eh bien, nous participerons au banquet de l'agneau. Dieu nous appelle, Dieu s'intéresse à nous, absolument pas en fonction de ce que nous aurions pu faire ou de ce que nous n'aurions pas fait. Souvent, on est encore, et je pense beaucoup, on se dit « Waouh, ça ne va pas, j'ai péché encore. Est-ce que Dieu va encore m'aimer ?» hein? Je ne sais pas si ça vous arrive. Est-ce que Dieu va encore m'aimer? C'est quand même pas possible. Je me mets en colère tout le temps. Tout le temps. Je m'énerve. Je n'arrive pas à m'empêcher de piquer une pomme à l'étal de la Migros. Est-ce que Dieu... Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Pas que vous imaginiez que je vais piquer des pommes. Mais lorsque on est... Dieu nous aime encore et toujours. Pourquoi ce n'est pas à cause de nous? C'est ça qui est extraordinaire, qui est peut-être frustrant, peut-être, parfois, parce que c'est pas, on n'y est pour rien, nous. On n'y est pour rien. Même si on fait des grandes choses, enfin, on a l'impression de faire des grandes choses, ça ne vaut rien pour Dieu. Dieu, il nous aime à cause de Jésus-Christ et par la mort de Jésus. Et ça, c'est quand même chouette. Enfin, moi, je trouve. Parce que, ben, voilà, on sait qu'on n'est pas parfait. On sait qu'on pêche encore, qu'on fait des bêtises, peut-être. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Il ne change pas. Et ça, c'est un encouragement. Ça, si on est à se plaindre, à s'auto-accuser de « Ah là 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 là, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. » Obéir à Dieu, je peux pas, un peu, mais pas complètement quand même. Alors bien sûr, le dimanche, je chante, je me soumets, viens me transformer mon cœur, je veux plus de toi. Mais après, le lundi, je ne peux pas, je ne peux pas. Il y a trop de choses. Eh bien, Mephibosheth, vous voyez, comme un chien mort, ça n'a eu aucun impact sur la manière avec laquelle David l'a vu. Si nous, nous nous considérons comme pécheurs, eh bien, ça n'a aucun impact sur la vie de Dieu sur nous. Et même, au contraire, nous sommes appelés à nous considérer toujours comme pécheurs. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que nous avons rencontré Jésus comme Sauveur et Seigneur, eh bien, nous sommes toujours, encore et toujours, des Mephibosheths. Même si on est pasteur, ancien, responsable de l'enfance, ou que sais-je encore, en formation, nous restons toujours encore des pécheurs. Et ça, c'est une attitude devant Dieu, de venir devant lui comme ça. Des fois, on croit qu'on a compris. Ah oui, j'ai lu 15 fois la Bible ces 15 dernières années, c'est bon. J'ai compris, je suis arrivé, c'est bon, cool. Ben non. On a compris, bien sûr, qu'on comprend certaines choses. Bien sûr que ça ne signifie pas qu'on va pécher par plaisir, comme ça. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas, si on poursuit dans une voie de péché, je ne dis pas péché occasionnellement, mais si on poursuit dans une voie de péché, du reste, l'apôtre Paul le dit, eh bien, on n'a pas saisi la grâce de Dieu, de ce que c'est la miséricorde de Dieu, la miséricorde qui fait que nous ne recevons pas ce que nous devrions recevoir, c'est-à-dire une peine de mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort, et la grâce qui nous donne ce que nous ne méritons pas, c'est-à-dire les bénédictions de Dieu. Alors vraiment, que nous puissions être encouragé de nous dire, mais c'est vrai, Dieu, ce n'est pas moi qui vois Daniel du commun, il me voit en Jésus-Christ. Et tant que je reste en Jésus, eh bien, je peux être tranquille, je peux être dans la paix. Waouh! Eh bien que, voilà, vous n'avez peut-être pas appelé vos enfants Mephibosheth, mais vraiment qu'on puisse garder cet exemple de Mephibosheth pour nos propres vies, de se dire, c'est vrai, je ne mérite rien. Et même si je suis là, debout devant vous, je ne mérite pas plus que vous. Et personne ne mérite plus que l'autre. Mais vraiment que nous puissions ainsi être dans cette relation avec Dieu continuellement. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que ce n'est pas de nous, de nos actions, que dépend ton amour pour nous. Mais tu es amour. Et tu nous dis aussi dans ta parole, il y a plusieurs reprises, que tu oublies nos péchés. Nous, on ne les oublie pas souvent, mais toi, tu les oublies. Lorsque nous revenons à toi, que nous nous repentons, eh bien, nos péchés sont aussi éloignés que les cieux sont éloignés au-dessus de la terre. Ils sont, tu les jettes dans les profondeurs de la mer. Et même si notre cœur est rouge de péché, eh bien, tu le rends blanc comme la neige. Alors Seigneur, merci, merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. Tu t'as donné ce que tu as de plus cher, Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que nous pouvons nous reposer maintenant en toi. Alors viens toucher nos cœurs, Seigneur. Si nous avons des difficultés à voir ce qui, à nous considérer d'une manière fausse, eh bien que nous puissions nous souvenir et proclamer que c'est en Jésus que nous sommes et que c'est ton regard, Jésus, sur nos vies qui est important. Merci de venir nous toucher les uns et les autres. Tu connais nos cœurs, tu sais où on en est, les uns et les autres, Seigneur, et que nous puissions vraiment nous encourager et s'encourager ainsi les uns les autres. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.